franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, que faut-il penser des tests ADN pour connaître ses origines généalogiques? Avec Evelyne Heyer et Louise Quintana Murci, spécialistes de la génétique des populations.
Je trouve que c'est un peu de la science récréative et elle a rien de mauvaise. Il faut parfois avoir un peu le niveau d'exactitude de ce qu'on nous raconte, mais il n'y a rien de mal, c'est ouais. Un peu... C'est de...
Mais ça fascine tout le monde, parce que les Afro-Américains hein, sont très amateurs aussi, ça y est, des émissions à la télévision américaine, pareil. On donne les origines africaines aussi des Afro-Américains.
Ouais, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on compare avec des populations de référence. Donc le résultat qu'on vous donne, il dépend des populations de référence qu'il y a dans la base de données. Et c'est vrai que, par exemple, là, pour les Afro-Américains, il y a des boîtes qui ont échantillonné un peu plus en Afrique pour arriver à dire à quelqu'un, non seulement vous venez d'Afrique, mais vous êtes plus proche de telle ou telle ou telle ou telle population. C'est vraiment moi, je trouve que c'est une belle manière aussi de faire comprendre que dans l'ADN, il y a quelque chose sur nos origines.
Ouais, et ça, évidemment, ça nous touche.
Ouais. Oui, et c'est hyper important, par contre, la comparaison avec les populations de référence. Parce que ça peut donner...
C'est quoi une population de référence?
C'est-à-dire, on va étudier quelqu'un afro-américain, et on va lui dire son génome africain, quand c'est entre 70% et 80% de leur génome est d'origine africaine, plus ou moins d'où il vient. Mais il peut avoir des grandes erreurs dépendantes de la population de référence. C'est-à-dire, on va regarder comment le génome de cette personne afro-américaine ressemble à différentes populations africaines, dites de référence. Mmh. Or, nous, on a vu récemment que le fait de souvent utiliser la population Yoruba de Nigeria comme population de référence peut amener à des erreurs, comme par exemple de dire que tel gène impliqué dans la résistance au paludisme a été sélectionné chez les Afro-Américains. Dès que vous utilisez une collection beaucoup plus complète de populations de référence africaines, vous voyez que les histoires peuvent changer.
Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas croire tout ce que nous dit l'ADN ou à faire de mauvaises interprétations de ce que les biens nous dire.
Et il y a même des exemples de gens qui ont fait les tests et qui les ont refaits quelques années après et leurs origines avait changé parce que, bien sûr, la base de données de la boîte qui faisait ça avait rajouté d'autres populations de référence. En général, les populations de référence, c'est quand on va sur le terrain, on échantillonne des gens qui ont leurs quatre grands-parents qui viennent du même endroit. Ça permet de se placer un peu à comment est la génétique au début du XXe siècle, avant les grandes migrations du XXe siècle. C'est pour ça qu'on les appelle populations de référence ou populations ancrées géographiquement.
Mardi, les récepteurs de l'ocytocine découverts par Joël Bockart, neurobiologiste.
On connaissait les hormones, donc on connaissait l'ocytocine d'ailleurs, déjà. Mais on connaissait pas les récepteurs, on savait pas sur quelles molécules, comment ces hormones fonctionnaient. Et donc le but était de rechercher ces récepteurs supposés, parce qu'on imaginait bien sûr qu'il y avait des récepteurs, et il fallait les trouver. Donc pour ça, je suis allé passer 2 ans à Saclay d'ailleurs, on a rendu cette ocytocine radioactive, et grâce à cette radioactivité, on a pu suivre où cette ocytocine se fixait, où est-ce qu'elle allait. Et en suivant où est-ce qu'elle allait, on a trouvé, les molécules sur lesquelles cette ocytocine se fixait, et c'était les récepteurs.
Qu'est-ce que ça a changé, alors, après, le fait de le savoir, ça, alors, justement, ce processus, ce mécanisme avec les récepteurs?
Alors, ça a changé énormément de choses. D'abord, j'ai découvert le récepteur ocytocine, mais après, bien sûr, c'est tout un mouvement, et la plupart des récepteurs ont été trouvés, nos hormones, nos neurotransmetteurs, etc. Et une fois qu'on a connu ça, bien entendu, on a pu savoir comment elle fonctionnait, donc voir toute la cascade biochimique à l'intérieur des cellules qui sont transformées par cette interaction de l'hormone avec son récepteur. Donc c'est tout un champ extraordinaire de la physiologie, de la pharmacologie. Et puis ces récepteurs, moi je travaille sur les récepteurs ocytocine, ce sont des récepteurs un peu particuliers, qui ont un nom un peu compliqué, mais qui s'appellent des récepteurs couplés aux protéines G, mais ce sont ces récepteurs qui sont... en quantité énorme dans l'organisme. 3% des gènes sont ce type de récepteur. Elle vous permet de voir, elle vous permet de sentir, elle vous permet de goûter, elle vous permet de recevoir les hormones, les neurotransmetteurs. Et ce sont aussi la cible de 50% des médicaments que vous achetez chez le pharmacien d'en face.
Et vous nous dites que ces récepteurs nous aident à avoir une vie harmonieuse, c'est vrai?
Bah oui, puisqu'elles nous permettent de voir, de sentir, de goûter, d'aimer, d'avoir du plaisir, puisque le neurotransmetteur du plaisir, c'est la dopamine, et c'est la dopamine agit sur ce type de récepteur.
Mercredi, Notre horloge biologique interne est-elle réglée comme un coucou suisse avec André Klarsfeld?
Peut-être pas aussi précis qu'un coucou suisse, mais quand même, pour un mécanisme biologique, c'est d'une remarquable régularité. Donc il peut y avoir des fluctuations d'un jour sur l'autre, mais la tendance à long terme, on peut la voir sur des animaux de laboratoire, parce qu'on peut les garder dans une obscurité constante. Donc ils n'ont aucun repère temporel, il n'y a pas d'allumage ni d'extinction de la lumière. On peut les garder dans ces conditions-là pendant des mois, et ils s'activent tous les jours à peu près, non pas à la même heure, parce que justement leur rythme n'est pas exactement 24 heures, mais tous les jours avec quelques minutes ou quelques dizaines de minutes d'avance ou de retard. Mais pour un animal donné, ce sera toujours le même nombre de dizaines de minutes ou le même nombre de minutes. Ce qui fait que les chercheurs peuvent prédire 8 ou 9 mois à l'avance à quelle heure ce hamster précis ou cette souris précise s'activera le jour de Noël suivant.
Oui. Donc on voit bien que ça ne dépend pas du jour et de la nuit, hein, que c'est vraiment cette horloge interne à notre organisme qui régule tout cela.
Tout à fait. Et l'exemple un petit peu malheureux qu'on peut donner chez les humains, c'est les personnes qui sont aveugles et qui ont perdu vraiment toute connexion entre la rétine et le cerveau. Donc, elles n'ont pas aucune perception de la lumière, ni consciente, ni inconsciente, parce qu'on y reviendra peut-être, mais la perception de la lumière par nos horloges qui démet à l'heure est une perception inconsciente, qui passe pas par les cellules de la vision classique. Et donc, ces aveugles se décalent progressivement, leur période, leur rythme n'étant pas de 24 heures. Mmh. Il y a des moments où ils sont en phase avec le jour extérieur, et des moments où, au contraire, ils sont en opposition totale de phase. Et donc, en plus des problèmes liés à la cécité, ils ont ce problème de synchronisation avec le jour extérieur, et donc avec les problèmes de sommeil qui vont avec, les problèmes de vie sociale qui vont avec.
Est-ce qu'on observe ça également chez les populations du Nord, par exemple, qui ont beaucoup moins de jours l'hiver, ou le contraire, évidemment, l'été, ou est-ce que finalement leur horloge interne fonctionne exactement comme des habitants de l'Équateur ?
Je ne crois pas qu'il y ait d'études très précises qui étaient faites sur le fonctionnement des horloges en fonction de la latitude. Par contre, ce qui est bien connu depuis longtemps, c'est les phénomènes de dépression saisonnière. Donc le blues de l'hiver.
Oui.
Et là, il y a clairement un effet plus marqué dans les latitudes les plus élevées, que ce soit au nord ou au sud. Et on pense, enfin une des hypothèses sur l'origine de cette dépression saisonnière est liée effectivement à un dysfonctionnement au niveau du système circadien, au niveau de l'horloge interne.
Jeudi, les toutes premières baleines avaient-elles des pattes ? Avec Olivier Adam.
Pachycétus, qui est c'est un genre de loup avec des sabots qui a été retrouvé au Pakistan, c'est les ancêtres des cétacés. On a un peu identifié ça à cause de l'anatomie de son oreille interne. Mm-hmm. Et puis après, alors lui, il était terrestre, d'accord? Il était intéressé par aller s'alimenter dans les rivières ou dans les fleuves.
Il faisait quelle taille? Enfin,
la taille d'un chien, d'un grand chien, quoi, d'un
d'accord.
gros chien. Et après, jusqu'à 35 millions d'années, donc de passer de 50 millions à 35 millions d'années, il y a eu une évolution qui a été terrible, puisqu'ils sont passés complètement dépendants du milieu marin. C'est-à-dire qu'en 35 millions d'années, leurs pattes se sont transformées en nageoires.
Ça, c'est incroyable.
Ils ne pouvaient plus revenir pour leur activité vitale sur la terre ferme.
Et ils sont devenus des baleines.
Et ils sont devenus des baleines, et là, ils ont pris cher, parce que en termes de morphologie. Alors après, il y a eu deux catégories qui sont les odontocètes, c'est-à-dire les baleines avec des dents, enfin les cétacés avec des dents, et les mysticètes qui sont les baleines avec les fanons. Mais ce qu'on peut voir, c'est que morphologiquement, ils ont extrêmement changé, parce que de passer de la taille d'un chien avec des pattes à ce qu'on connaît des grandes baleines, ne serait-ce que déjà de la taille, le fait que les évents, enfin les narines se sont déplacées du museau jusqu'en haut de la tête, etc. Enfin,
amusant, parce qu'avec Jean Lebrun, finalement, on a fait une bonne transition sans le savoir, parce que lui parlait des loups tout à l'heure, on enchaîne avec les baleines, et vous nous expliquez qu'il y a un lien direct finalement entre les deux.
Oui, enfin,
quasiment.
Peut-être pas le loup, parce
qu'il a été très long sur le temps.
Mais... Ouais, c'est ça. Peut-être pas le mot loup, parce que là, c'était juste pour avoir une image de ce que c'était que l'ancêtre des cétacés, mais en tous les cas, c'est clair que l'évolution a fait que maintenant ils sont totalement adaptés au milieu marin et toute leur activité vitale, enfin toute leur que ce soit la reproduction, l'alimentation, le repos, le déplacement, etc., ils peuvent le faire que dans le milieu marin.
Est-ce que d'un point de vue de l'évolution, tiens, on pourrait revenir en arrière ? C'est-à-dire que si on se projette dans 50 millions d'années plus tard, est-ce qu'on pourrait trouver des baleines qui soient redevenues des animaux à quatre pattes marchant sur Terre.
S'il n'y a plus rien à manger ou plus la possibilité de se reproduire dans l'eau, ils vont forcément revenir à un moment donné.
Donc on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer. Ouais. Peut-être que c'est nous qui allons y aller.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.